Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à l'Inde. À l'ordre du jour ce soir, qu'est-ce que la nouvelle ère promise par Narendra Modi ? L'Inde est entrée en campagne électorale pour un scrutin qui se déroulera au printemps et le Premier ministre a inauguré cette période en participant à la consécration du temple de Ram à Ayodhya. Il y a à cette occasion mêlé son rôle de leader politique à celui de leader religieux en accomplissant pour la première fois en Inde, visiblement, on en discutera avec nos invités, des rituels sur le site qui a vu de nombreux massacres et de nombreuses tensions entre musulmans et hindous. Mais quelle est donc cette nouvelle l'ère promise par Modi? Comment le Premier ministre utilise-t-il les moyens légaux à sa disposition pour tenter de présenter l'Inde, pays multiconfessionnel comme le pays de la religion hindouiste, négligeant ou minorant les autres religions? C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités, avec Charlotte Thomas, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel.
Vous êtes docteur en sciences politiques et associé au programme Asie du Sud au sein du réseau de chercheurs Noria et vous avez écrit Pogrom et ghetto, les musulmans dans l'Inde contemporaine chez Kartala. Avec nous également à distance depuis New Delhi, Sophie Landra, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel.
Vous êtes chef du bureau du journal Le Monde à New Delhi depuis 2019. Vous couvrez l'Inde et l'Asie du Sud et vous êtes co-autrice avec Guillaume Delacroix d'un livre qui paraîtra la semaine prochaine aux éditions Actes Sud dans la série Dans la tête 2. Vous êtes autrice de Dans la tête de Narendra Modi. Et avec nous, troisième invité depuis France Bleu Provence à Aix-en-Provence, Arundhati Virmani, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel.
Vous êtes historienne de l'Inde contemporaine, vous avez enseigné à l'université de Delhi et vous enseignez actuellement au campus de Marseille de l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes autrice de l'Atlas historique de l'Inde qui est paru aux éditions Autrement en 2012 et en 2016 vous avez publié Les Indiens voix multiples chez Atelier Henri Dougier.
Ram mandir ke bhoomi pujan ke baad se pratidin pure desh mein.
Après la bénédiction du temple de Rama, l'enthousiasme et l'excitation augmentent chaque jour dans le pays. En brisant les chaînes de l'esclavage, le pays devrait s'élever en tirant les leçons de courage du passé. C'est ainsi qu'une nation crée une nouvelle histoire.
Nous avons travaillé d'arrache-pied pour faire d'Ayodhya la capitale de la spiritualité dans le monde. Nous traçons de nouvelles routes, nous embellissons les rues, nous construisons des hôtels, nous créons des spectacles de son et lumière.
Je crois qu'il n'y a plus de ressentiment aujourd'hui. Le temple sort de terre après un long processus de délibération judiciaire et plus de 3 milliards d'euros ont été investis à Ayodhya. Cela bénéficie à toutes les religions.
Vous venez d'entendre successivement Narendra Modi, le Premier ministre indien qui s'exprimait la semaine dernière lors de l'inauguration du temple de Ram à Ayodhya, Vishal Singh qui est directeur de l'autorité de développement d'Ayodhya et Gaurav Dayal qui est préfet d'Ayodhya. C'est extrait du journal de 8 heures de France Culture le 22 janvier dernier. C'est quoi cet enthousiasme qui monte et que prédit justement Narendra Modi, Sophie Landrin? Je crois que vous y étiez justement à cette inauguration.
Oui, alors... Effectivement, c'est un enthousiaste qui a quand même été très, très, très calculé, porté par les réseaux nationalistes hindous. Ils avaient organisé dans tout le nord de l'Inde et dans le sud des grandes manifestations. Ils ont véritablement fait en sorte que ce soit un grand événement. Spontanément, je ne sais pas si ça l'aurait été, mais en tout cas, c'est devenu l'événement majeur. En Inde et peut-être l'événement majeur du siècle pour les nationalistes hindous.
Et ça prenait quelle forme, puisque vous pouvez nous décrire des sons, des images, qu'est-ce que
alors,
vous avez...
La cérémonie a été extrêmement grandiose, totalement tournée autour de Modi, mais ce qui est très étrange, c'est qu'en fait, il a inauguré un temple qui est à moitié fini, qui est encore en chantier. Toute la ville est un chantier à ciel ouvert. Et d'ailleurs, il y a certains religieux qui se sont opposés à l'inauguration en disant que on ne pouvait pas inaugurer un temple qui n'était pas terminé. Mais pour Narendra Modi, c'était très important de l'inaugurer avant les élections qui vont avoir lieu au printemps, car Ayodhya, pour lui, c'est la carte maîtresse. Il pense qu'il remportera les élections facilement avec Ayodhya, en ayant offert ce temple tant attendu depuis un siècle aux hindous.
J'ai dit tout à l'heure, Charlotte Thomas, qu'il avait peut-être mélangé son rôle de leader politique à celui de leader religieux. Vous sembliez tiquer un peu vis-à-vis de ce mélange des genres. Qu'est-ce que Ayodhya et pourquoi ce lieu a tant d'importance aux yeux de Narendra Modi?
Alors en fait, c'est plus sur la terminologie parce que vous avez parlé de religion hindouiste. Or, c'est la religion hindoue parce qu'en fait, les hindouistes, et je pense que c'est important parce qu'on parle peu de l'Inde quand même globalement, donc aujourd'hui merci de le faire.
Faisons-le.
Mais là, il y a les hindous qui sont les fidèles de la religion et les hindouistes qui utilisent la religion à des fins politiques. Sur le temple, oui, effectivement, enfin, c'est, disons que je pense qu'il faut quand même prendre un pas de recul sur la communication qui est faite et la réalité des choses, parce que dans la communication, pour mettre en œuvre cet événement majeur, donc la construction d'un temple sur le site d'Ayodhya,
qui n'est pas un site anodin.
Non, tout à fait. Avant, il y avait une mosquée qui a été détruite en 92, qui a donné suite à des émeutes intercommunautaires, et ensuite en 2002 au pogrom anti-musulman sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Effectivement, dans la matrice idéologique de l'hindouisme politique, la récupération du temple d'Ayodhya, de la mosquée d'Ayodhya pour en faire un temple, était un événement majeur. Mais aujourd'hui, quand on dit qu'aussi c'est un événement majeur, il faut savoir quand même que, par exemple, les fonctionnaires s'étaient vus attribuer un jour de congé pour aller à l'inauguration du temple, que toute la presse est quand même très aux ordres du pouvoir, donc en fait, il était impossible d'échapper à, de toute façon, la mise en scène de cet événement, quand bien même il était réel ou non, et que par ailleurs, effectivement, il y a quand même deux choses à signaler par rapport à cette... pour un peu... casser le récit qui est en effet communicationnel. Il y a eu plein de reportages sur le fait qu'il y a eu des expropriations massives de gens pour construire ce temple, donc ça pose quand même des questions, et que ce temple a été boycotté par beaucoup de religieux, alors certes parce qu'il n'était pas fini, mais aussi parce que justement Narendra Modi utilisait le sacré à des fins politiques. Donc il y a des brèches quand même, et ça je pense qu'il est important de toujours pour garder en tête, parce que le gouvernement indien depuis 2014, c'est un gouvernement qui utilise énormément la communication, ça a été Narendra Modi a été un des premiers à utiliser ça dès 2007. Donc il faut quand même toujours prendre du recul sur ça.
Oui, Arundhati Vermani, d'ailleurs, c'est aussi une rupture par rapport à une longue tradition, pourrait-on dire, de leaders politiques indiens. Cette question de mélanger l'usage politique et l'usage religieux, ça n'est pas si fréquent que cela.
Ça représente un grand changement, en fait. Parce que si on pense aux premières décennies après l'indépendance de l'Inde, l'accent était plutôt sur une place plus discrète à la religion du point de vue des gouvernements. Et que les politiques voulaient que, bien sûr, il y a la religion est omniprésente et de point de vue informel, comme disait l'anthropologue américain Bernard Cohen, les hindous, les indiens sont plutôt attachés à un passé mythique, mythologique, qui s'exprime à travers les célébrations et à travers les festivités et les cérémonies et les rituels qu'à un passé historique. Donc, ces premières décennies, l'accent était mis par le gouvernement sur une religion, un hindouisme qui s'accommoderait et qui serait plus inclusive avec d'autres religions. Et c'était, en fait, c'était incarné. La politique était incarnée pas seulement par le premier ministre Nehru, mais aussi par le deuxième président de l'Inde, qui était Sarvepalli Radhakrishnan.
C'était aux alentours du début des années 60, là.
Oui, il était président de 1960 à 1967. Et il a vraiment... beaucoup écrit, et c'était l'interprète d'un hindouisme un peu humaniste et universaliste. Et actuellement, donc, nous sommes dans une autre phase. Radhakrishnan, par exemple, a beaucoup contribué à une interprétation à la fois légale de l'hindouisme, il était lui-même philosophe, traducteur des grands textes hindous, et un hindouisme qu'il a interprété pour servir la cause du progrès social, de la réforme, la cause des femmes. Et actuellement, nous sommes dans une autre phase où il y a une célébration de cet aspect mythologique, le dieu Ram, qui résonne à part toute la communication que fait le gouvernement, qui résonne partout chez beaucoup, beaucoup d'Indiens. Et j'ai eu un reportage d'une collègue qui était dans le Bengal occidental, qui m'a dit, vous pouvez pas imaginer le bonheur des gens qui sont ici, dans le côté occidental du Bengal, dans un district qui s'appelle Purulia. Et il dit, je ne peux pas vous raconter le bonheur de ces gens.
À cause justement de cette...
Il y a un temple dédié à ce dieu. Oui. Donc il y a les deux aspects, il y a la direction et la communication et les fins politiques, mais il y a une résonance très forte.
Alors justement, qu'est-ce que veut dire Sophie Landrin, cette nouvelle ère de Narendra Modi, quand il dit nous assistons à l'émergence, à l'arrivée d'une nouvelle ère? Est-ce que c'est justement une vision de l'histoire qu'il propose? Est-ce que c'est une manipulation de l'histoire ou une manipulation de la politique pour pouvoir à des fins donc ou de la religion à des fins politiques? Qu'est-ce que cette nouvelle ère? Comment peut-on la décrire? Tel qu'il l'imagine, puisque vous avez écrit dans la tête de Narendra Modi, qui sort la semaine prochaine chez Actes Sud.
Oui, pour moi, la nouvelle ère, ça fait très peu de doute. C'est une ère qui rompt avec l'héritage des pères fondateurs, qui avaient inscrit dans la Constitution le principe d'une république séculaire, c'est-à-dire une république qui devait faire vivre ensemble toutes les religions. L'Inde est une société multiconfessionnelle. Et ça, je crois que la nouvelle ère dans laquelle l'Inde rentre, c'est une Inde qui favorisera les hindous. Le régime vers lequel on tend, c'est un régime suprémaciste qui accorde des droits supérieurs aux hindous par rapport aux autres minorités. Et Ayodhya, ça incarne ça. Qu'est-ce qu'ont fait les nationalistes hindous? Ils ont détruit une mosquée, revendiquant la possibilité de construire ce temple, et la Cour suprême a accordé aux hindous donc un droit supérieur à celui des musulmans. Mmh. Donc on rentre dans un régime complètement différent. On peut dire que d'une certaine manière c'est un peu l'équivalent du Pakistan, qui est une république islamique. Là, le risque, c'est que l'Inde devienne une république hindoue avec deux catégories de citoyens, les hindous très majoritaires qui représentent 80% de la population,
et tous les autres,
et les minorités, voilà, principalement musulmanes et chrétiennes, 200 millions. La minorité musulmane indienne, c'est la plus grande minorité au monde, c'est 200 millions d'indiens, et les chrétiens représentent
en tant que minorité, vous voulez dire, c'est ça, dans des pays qui ne sont pas musulmans eux-mêmes. Charlotte Thomas, justement.
Oui, alors en fait, moi je distingue quand même, Narendra Modi dit qu'on est rentré dans une nouvelle ère, très bien. En revanche, pour moi, c'est beaucoup plus ancien, déjà.
Oui.
C'est vraiment plus ancien. C'est-à-dire que alors, pour moi, ça date déjà de 2014, c'est-à-dire que l'arrivée au pouvoir, de Narendra Modi, où j'ai écrit là-dessus, je considère, en employant un terme un peu gramscien, mais qu'on est passé d'une hégémonie séculariste, donc effectivement, où l'État avait une égale bienveillance envers tous les groupes religieux, pour le dire vite, à une hégémonie hindouiste, où effectivement, on est, et ça depuis 2014, parce que là, c'est... Il y a aussi on dit qu'on entre dans une nouvelle ère, parce qu'il y a aussi un biais électoraliste là-dedans, puisqu'il y a des élections au printemps. Donc effectivement, depuis 2014 et avant ça au Gujarat, qui est l'état sur lequel j'ai travaillé, qui a été le premier état remporté par le BJP sans l'aide d'une coalition en 95 et qui a déjà mis les jalons. Mais effectivement, là, on entre dans une époque, en fait, où, alors bon, je parle pas de régime, aujourd'hui il faut quand même le dire pour les auditeurs, auditrices, l'Inde reste un régime où les gouvernements sont élus lors d'élections dont les résultats sont reconnus par tous. En revanche, il y a une pratique de plus en plus autoritaire du pouvoir qui, entre 2014 et 2019, s'est beaucoup exercée à l'égard des minorités ethno-religieuses. Depuis 2019, s'exerce à l'égard des minorités ethno-religieuses et également de plus en plus à l'égard de toute forme d'opposition, donc intellectuelle, artistique, associative. Donc, vous voyez, il faut tenir les deux jambes ensemble. Et la troisième, qui est l'économie. Mais c'est ça que je voulais clarifier sur...
Vous disiez tout à l'heure, la presse est aux ordres, plus ou moins. Plus ou moins, c'est ce que vous disiez, mais néanmoins, c'est un pays théoriquement démocratique, donc a priori, où justement, vous le dites, il y a des élections, il y a une hégémonie, mais il n'y a pas encore un caractère totalement totalitaire. Comment se fait-il que la presse suive à ce point, effectivement, le discours du pouvoir?
Deux choses, selon moi. D'une part, en fait, effectivement, mais vous savez, et c'est ce que je voulais vous dire aussi, aujourd'hui, il y a certes toujours de la violence qui s'exerce à l'égard des minorités ethno-religieuses, mais il y a aussi, comme le peuple est de plus en plus socialisé à cette hégémonie dominante, c'est-à-dire au fait que l'hindouisme est supérieur en Inde, pour le dire vite, hein, je dis pas que ce sont mes propos. Je dis... Donc en fait, depuis qu'à 20-30 ans, il y a une socialisation. Donc les gens en fait se gagnent de même à ça. Et donc pour parler des médias, il y a d'une part cette socialisation. Donc les médias eux-mêmes s'autocensurent d'une part ou d'autre part sont eux-mêmes convaincus de ce qu'ils disent. Et d'autre part la variable économique, comme ça se passe dans beaucoup de pays, les grands groupes de presse sont tenus par des grands groupes industriels qui sont des très proches de Narendra Modi et qui financent sa campagne. Et effectivement, quand je dis que la presse est aux ordres, il faut savoir aussi que Narendra Modi est une personne qui ne donne jamais d'interview ni de conférence de presse.
Oui, d'ailleurs, on ne trouve pas d'archives.
Non, parce qu'il ne le fait pas. Donc, vous voyez, et il faut tenir aussi en compte le fait qu'aujourd'hui, dans cette l'évolution de ça, c'est que Narendra Modi coopte aussi au sein des minorités ethno-religieuses certains groupes pour appuyer sa politique.
Sophie Landrin.
Oui, parce que moi, je souhaitais intervenir parce que je pense que avoir des élections libres dans un pays ne suffit pas à définir une démocratie. Une démocratie, ça se définit aussi par un état de droit. Or, qu'est-ce qu'on constate en Inde ? C'est l'effondrement de tous les piliers de la démocratie. Ouais. C'est l'érosion de la liberté de la presse et des libertés tout court. L'indépendance de la justice qui est remise en cause, l'indépendance de structures comme la commission électorale qui est fondamentale et qui n'est plus indépendante, un parlement croupion, effectivement une presse aux ordres. Donc en fait,
vous parlez d'un gouvernement par la peur dans votre
oui,
livre sur la tête de Narendra Modi.
Oui, je pense que l'Inde a quitté le champ des démocraties telles que nous les connaissons et que, alors, elle peut être classée comme une démocratie imparfaite ou comme un régime plus dur, mais en tout cas, c'est plus vraiment une démocratie comme on l'entend en Occident. Les piliers de la démocratie s'effondrent sous les coups de boutoir assénée par Narendra Modi depuis 2014.
Arundhati Virmani, à l'instant même, on entendait Charlotte Thomas nous dire qu'il y avait un troisième pilier, qui était le pilier de l'économie. Qu'est-ce que le discours de Narendra Modi au temple de Ram à Ayodhya a été aussi un discours pas simplement religieux, pas simplement politique, mais aussi économique, en tout cas de politique économique, comme si c'était un discours qui permettait de dire ce qu'il allait faire s'il était réélu au printemps prochain. Quels étaient les tenants et les aboutissants de ce type de discours économique, Arundhati Virmani ?
Il faudrait peut-être associer le discours de Narendra Modi à Ayodhya avec ses déclarations lors de Republic Day, la journée de la République, le 26 janvier.
Oui, donc et là où était justement le président de la République français, puisqu'il s'y est rendu à ce moment-là.
Voilà, absolument, avec Emmanuel Macron à ses côtés. Et donc, il y a des mots qui ressortent, c'est pas la première fois qu'il les a prononcés. Par exemple, il a parlé de esclavage, goulami, où il a redit ça dans le 26 novembre. Il a dit les Indiens devaient prendre 5 vœux, et parmi ces vœux, c'est une décolonisation de toutes les parties de nous. Mental, tout. Donc c'est aussi économique. Et ça rejoint à ce discours qu'il a prononcé avant, c'est qu'il faut faire en Inde, il faut être autonome et Atmanirbharta. Et on peut dire c'est une campagne électorale, mais il a vraiment accentué ça que en 2047, il a dit « Hum aa rahe hain, nous allons arriver ». Et ye hoke rahega, ça sera fait. Donc c'est des
qu'est-ce qu'il veut dire par là ? C'est les promesses économiques ou c'est les promesses politiques ?
Oui, c'est des promesses économiques et il souligne le développement. D'ailleurs, dans l'État de Uttar Pradesh, qui est un grand État avec une population
densité
de population extrêmement forte, qui va envoyer 80 députés dans l'Assemblée, dans les élections de printemps. Si on parle aux gens, par exemple, je parlais à quelqu'un qui conduit la voiture et il m'a dit, vous pouvez dire ce que vous voulez de Modi, mais pour nous, il y a 20 ans, j'amenais ma mère à l'hôpital, je devais la mettre sur un lit et la porter sur mes épaules avec mes frères pour arriver au bus. Maintenant, moi, je vais voter pour Modi. Et donc, le slogan de ce gouvernement était « Achedin arahe hain », les bons jours vont arriver. Alors ça peut avoir une contre-réaction, que ces bons jours ne sont pas arrivés pour tout le monde. Mmh. Il y a un taux d'emploi, ce seront des défis. Mais en ce qui concerne ces promesses économiques qu'il a fait depuis toutes ces années, il y a une dizaine de ces promesses. Si on regarde l'Inde des années, par exemple, 50 jusqu'à les années 80, on trouvera peut-être 5 slogans que les gouvernements sont sortis. Le premier, c'était « Fin à la pauvreté ». Et puis, il y avait un slogan « Roti kapra aur makan ». On aura à quoi manger, à quoi s'habiller, et puis un logement. Donc, en comparaison avec ces 5 slogans dans 2-3 décennies, maintenant, nous avons une multitude de slogans qui promettent le développement, mais ça reste des défis. Hein. Il faut adresser des problèmes de
chômage. Oui, des promesses électorales, d'une certaine manière.
Oui,
des promesses électorales.
De la santé, des structures de santé qui ont été mises en difficulté pendant la pandémie. Donc, il y a ce programme électoral, il y a ce programme de développement. Et je pense que dans les années à venir, il y a des élections. On peut dire que ça ne suffit pas pour
définir
un pays comme une démocratie, mais les élections sont importantes quand même. Il y a 65%, plus de 67% de gens qui votent. Mmh. Donc, il n'y a pas un désenchantement avec ce processus électoral. Il y a des élections et tous les calculs des partis politiques tournent autour de comment gagner ces élections. Donc, il faut convaincre un électorat. Et si s'il y a le chômage, s'il y a ces problèmes économiques et si la question de pauvreté n'est pas adressée, ça va être difficile.
Charlotte Thomas.
Oui, alors déjà pour répondre sur ce, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Sophie. Hein. Je précisais juste le fait qu'il y ait des élections pour quand même cadrer le fait que ça reste, et c'est ça, c'était lié à mon point de socialisation. J'expliquais qu'il y avait des élections pour dire que les gens étaient de plus en plus en fait convaincus eux-mêmes de ce qui se passait. En dehors de, mais je suis entièrement d'accord avec ce qu'a mentionné Sophie sur l'état de droit, et je rappelle à cet égard que le Parlement européen a adopté une résolution en début d'année 2024 où il s'alarmait notamment de la modification du code pénal indien qui va dans un sens extrêmement autoritaire. Sur l'économie, il faut se prémunir. En fait, pour moi, c'est là aussi un mystère, entre guillemets, parce qu'il faut vraiment se prémunir du discours qui est fait sur l'économie et de la réalité des chiffres qui sont absolument catastrophiques. Le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté, pauvre en gros sur les indicateurs, n'a pas progressé depuis les années 2000. C'est le même, en fait, on est toujours face au même problème, entre guillemets, face à l'économie indienne, c'est-à-dire que c'est une économie qui a la croissance sans développement, au sens où, en fait, elle ne profite pas aux plus pauvres, vraiment. Il n'y a pas d'État-providence, etc. Il n'y a pas de services publics extrêmement développés. Ça profite à une classe, à des castes données, notamment urbaines et plutôt supérieures. Donc, tous ceux, en fait, qui vont s'exporter aussi. La diaspora indienne est une diaspora, a priori, entièrement enquise à Narendra Modi, parce que ce sont des gens qui, voilà, sont dans d'autres sphères, etc. Mais les chiffres d'investissement de l'État dans les infrastructures sont, je crois que c'est 40% en Chine, 3% en Inde. Vous voyez, je mentionne la Chine parce que l'Inde veut souvent rivaliser et qu'elle est souvent perçue à tort dans le reste du monde comme une puissance qui pourrait rivaliser avec la Chine. On n'en est pas du tout là, enfin, genre vraiment. Et sur, encore une fois, sur les indicateurs économiques, ils sont vraiment extrêmement mauvais.
Sophie Landrin, sur ce point économique.
Oui,
parce qu'on a mis l'accent sur effectivement le bien-être, l'arrivée des toilettes dans beaucoup d'endroits, etc., etc. Ça fait partie du discours que l'on entend quand on ne va pas en Inde et qu'on ne connaît pas le pays, d'une certaine manière. Est-ce que cela est donc l'amélioration de logement, paraît-il, dans certaines villes et dans certaines régions? Est-ce que cela, justement, étant donné que le pays est fédéral, qu'il y a effectivement une très grande diversité dans cet immense pays qu'est l'Inde, est-ce que cela est un discours ou une réalité?
Non, il y a des choses qui s'améliorent. Par exemple, Narendra Modi, il investit considérablement dans les infrastructures. D'ailleurs, la croissance indienne est forte, autour de 7%, grâce au développement des infrastructures. Mais, par exemple, ils se vantent beaucoup d'avoir fait de l'Inde la cinquième économie mondiale. Et en fait, ça n'a pas de sens. Ce qui compte, c'est de rapporter le PIB par habitant. Et si on tient compte du PIB indien par habitant, l'Inde se classe derrière le Bangladesh et je crois qu'elle est au niveau du Ghana. Donc en Inde, il y a des indicateurs qui sont beaucoup plus intéressants à observer. Par exemple, il y a encore 800 millions d'Indiens qui vivent avec les rations alimentaires distribuées par le gouvernement. Donc, effectivement, il y a une certaine classe qui progresse, mais la majorité des Indiens sont encore des gens qui vivent de l'agriculture, et ce sont des pauvres. Ce sont des pauvres, et l'Inde souffre d'un sous-investissement chronique dans l'éducation, dans la santé. Modi investit dans les infrastructures, mais un autre indicateur qui est important et qui est un signe de la mauvaise santé de l'économie, c'est le chômage des jeunes. Aujourd'hui, il y a les candidats à l'immigration qu'on retrouve aux États-Unis, il y a une grosse partie d'Indiens. Il y a tellement peu de travail en Uttar Pradesh, là, l'État où a été construit Ayodhya, que les candidats se précipitent pour aller essayer de trouver un travail en Israël. Donc non, l'économie indienne ne va pas bien et elle ne peut certainement pas remplacer la Chine, parce que l'Inde, c'est un pays qui n'a pas fait sa révolution industrielle, qui n'a pas d'industrie et qui reste un pays majoritairement agricole.
Oui, sur ce point, Arun Nativirmani, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, je suis assez d'accord. Il y a un problème de chômage des jeunes. Ça reste un grand défi. Il y a actuellement une question d'emploi informel. Hein. 6 à 8% de... on n'a pas des statistiques très précises parce que les recensements n'ont pas été faits, mais il y a des chiffres quand même qui sont... accueillis par le périodique Labour Force Survey, et il montre que il y a un emploi informel de 80% de la population. Donc c'est vraiment, s'il y a une transformation sociale et à réussir dans le pays, ça sera à travers cette question d'emploi. Il y a un livre récent qui est sorti par le gouverneur de banque de réserve de l'Inde, Raghuram Rajan, avec un économiste théoricien, Rohit Lamba, qui est comment on va casser le moule et réimaginer la future économique de l'Inde. Et il a accentué l'importance de vraiment accentuer l'éducation pour que ça devienne quelque chose plus créatif et que l'Inde ne reste pas à vraiment assembler des partis pour technologiques, qu'il y ait l'innovation et qu'il y ait la créativité et qu'on prend en main cet aspect pour ne pas devenir le pays qui assemble des choses. Donc, ce sont des questions, des vraies questions qui se posent et qu'on devrait adresser.
Charlotte Thomas, vous avez insisté dès le début, dès votre première intervention, sur le fait qu'il y avait un discours, il y avait la réalité des choses. Donc on a compris en avançant dans cette émission de quoi il s'agissait. Il est 18h48 dans le temps du débat. Nous évoquons la question indienne et en particulier ce terme de nouvelle ère que veut mettre en place le Premier ministre Narendra Modi, qui espère être encore Premier ministre après les élections du printemps. Mais... cette question du soft power indien est une question intéressante, c'est-à-dire que d'une certaine manière, si Emmanuel Macron se rend en Inde, s'il veut faire de cette Inde un partenaire pas simplement économique, mais aussi un partenaire stratégique, c'est bien parce que d'une certaine manière, le discours de l'Inde et de Narendra Modi parvient au-delà des frontières et permet d'une certaine manière de faire miroiter la possibilité que, comme vous le disiez tout à l'heure, eh bien cette Inde puisse devenir la Chine nouvelle, etc., etc.
Tout à fait, mais là on retrouve en fait une dichotomie entre les les classes supérieures des Nord et des Sud. C'est-à-dire qu'en fait, Narendra Modi, évidemment, qu'il parle, quand il attire aussi beaucoup le regard international, parce qu'il signe plein de traités de libre-échange, il libéralise le marché. On en parlait hors antenne, mais l'hindouisme politique de Narendra Modi est inséparable de sa jambe économique. Vraiment, à chaque fois, j'insiste là-dessus. Depuis le Gujarat, depuis qu'il a été élu au Gujarat en 2001. C'est-à-dire l'économie, privatisation et libéralisation du marché. C'est comme ça que, du coup, il se fait aussi financer par sa campagne par des grands groupes qui retrouvent leur intérêt catégoriel. Donc, à cet égard, je dis juste qu'il sert des intérêts catégoriels et que, du coup, il attire le président français, notamment, alors pour des questions stratégiques défense qui sont une chose, où on vend des rafales, ça, c'est une chose pour la... Donc, ça, c'est des biens d'État pour la préservation, la sécurisation, je rentre pas dans ce débat, mais de l'océan Indien, mais il y a aussi des entreprises privées. Et là, en fait, il parle du coup, mais sauf que quand Narendra Modi attire ces grands groupes français, en l'occurrence, dans le marché indien, il y a une substitution de l'emploi, en fait. Donc, du coup, il dessert les intérêts de sa population à lui. Vous voyez ce que c'est? Et on a la même chose à l'inverse ici. C'est le problème du libre-échange quand il n'est pas raisonné et raisonnable. Donc, effectivement, il y a ce discours-là parle. Ça, c'est sûr. Mais si on prend comme étalon mesure le fait que c'est normalement dans une démocratie, c'est l'intérêt du peuple souverain qui doit l'emporter de la majorité, là, c'est plus compliqué en termes économiques. C'est ça que je dis sur le discours économique. Et juste une chose sur l'économie, il faut aussi avoir en tête, comme vous l'avez rappelé, que c'est un État fédéral. Donc il y a aussi les gouvernements régionaux qui comptent dans les politiques publiques qu'ils mettent en place.
Y compris d'ailleurs pour les politiques publiques d'éducation.
Tout ça, notamment au Kerala. Voilà.
Et qui sont des politiques publiques d'éducation différentes. Parce qu'effectivement, il y a un discours du BJP pour pouvoir imposer une sorte de vision uniforme de l'histoire de l'Inde dans l'ensemble des provinces. Mais ça n'est pas possible puisqu'il y a justement ces résistances locales, pourrait-on dire.
Voilà, et d'un point de vue politique électoral, c'est aussi pour ça, comme l'hindouisme politique à un registre vraiment identitaire d'Inde du Nord, c'est pour ça que le BJP peine à s'implanter durablement dans les États du Sud. Pour résumer, le BJP gagne majoritairement à chaque fois les élections régionales et de plus en plus massivement. En revanche, les élections régionales, il est de plus en plus obligé de s'allier avec des partis locaux, ce qui est extrêmement intéressant sur comment il repense sa stratégie identitaire.
Oui, et en particulier, il y a certains leaders d'ailleurs de l'opposition qui viennent de passer des alliances électorales avec lui pour pouvoir effectivement participer peut-être au renouveau promis par Narendra Modi. Sophie Landrin.
Oui, moi je crois quand même que la mise en valeur et la reconnaissance de l'Inde sur la scène internationale qui s'est concrétisée par la venue du G20 en septembre à New Delhi, je pense que c'est un des très grands succès de Narendra Modi, c'est incontestable.
En fait, Narendra Modi... C'est pas simplement un discours de soft power, c'est aussi une réalité.
Non. L'Inde a acquis maintenant une place sur la scène internationale qui est incontestable. Et en fait, il bénéficie du fait que les Occidentaux avaient besoin d'un contrepoids à la Chine et avaient besoin d'un partenaire dans l'Indo-Pacifique, et également peut-être aussi d'un médiateur dans certains conflits comme dans le conflit russo-ukrainien. Et il a redonné à l'Inde une place importante sur la scène internationale. Alors, l'attitude des Occidentaux peut être critiquée parce que jusqu'à présent, ils ont fermé les yeux complètement sur la dérive des
institutions.
Des libertés en Inde. Mais c'est un fait que ça, c'est vraiment une chose qu'il faut lui reconnaître.
Et alors, je voudrais reprendre justement, parce que nous arrivons d'ici 5 ou 6 minutes à la fin de cette émission, reprendre la question posée au tout départ. Cette nouvelle ère, vous nous avez expliqué, Sophie Landrin, comment vous la voyez ou comment elle était vue par Narendra Modi, sur laquelle vous avez travaillé dans votre livre Dans la tête de Narendra Modi. Vous la voyez comment, par exemple, Charlotte Thomas, cette nouvelle ère telle qu'elle est imaginée par Narendra Modi?
Alors lui, je pense qu'il voit ça de façon très positive sur la mise en avant de la culture, j'aime pas trop ce terme, mais bon, disons de la culture, la socialisation hindouiste, quoi. Et d'ailleurs, Ayodhya, c'est un précédent, mais là, je le disais avant de venir, il y a déjà d'autres cours qui ont autorisé des hindous à aller prier dans des mosquées, en arguant que c'est... Donc vous voyez, ça se diffuse.
Parce que il y a quelque chose qu'on a oublié de dire, c'est qu'effectivement, un des discours, et ça a été évoqué très brièvement par Arundhati Virmani, c'est un des discours de Narendra Modi, c'est de dire que ce pays a vécu 1200 ans de servitude d'une certaine manière, et que là, il y avait le discours que les hindous avaient été sous la tutelle d'autres religions, d'autres pays, d'autres empires, et qu'au bout du compte, il fallait reconquérir cette servitude et cet esclavage qui avait été, enfin, l'écarté qui avait été le propre des hindous depuis ces 1200 ans.
Tout à fait, mais ça, c'est une réécriture de l'histoire, parce qu'il y a par exemple l'empire Vijayanagara qui était un empire. Et puis en plus, avec la colonisation, comme pour les Français, on a scindé, on a vraiment essentialisé hindous versus musulmans et chrétiens. Mais en fait, à l'époque, sous les Moghols, ça c'est attesté par des écrits, il y avait des hybridations comme dans tout à l'histoire de
l'empire.
À chaque fois, exactement. Et notamment par des mariages, c'est comme ça qu'on fait des conquêtes. Bref, donc pour répondre, ça, on est bien d'accord que c'est le discours de la reconquête. Et puis c'est toujours ce truc, voilà, nous on était sujets, maintenant on reconquiert la force, etc. Mais en revanche, pour comment je vois la chose, c'est pour moi, en fait, on est arrivé dans une troisième phase un petit peu d'hindouisme politique. C'est ce que je disais, minorité, ensuite l'opposition dans son intégralité. Et maintenant, comme on est vraiment dans un régime comme ça, alors, enfin, qui est aussi très violent, hein, parce qu'il y a les minorités chrétiennes, là, à Noël, qui ont encore été victimes, etc. Mais il y a aussi une double tentative identitaire pour vraiment gagner l'intégralité du pays de façon durable, parce qu'on a bien rappelé que dans le sud, le BJP peine à s'implanter. Il y a d'une part la cooptation par les identités régionales qui casse complètement l'hindouisme politique tel qu'il est pensé à la base, très organique, très centralisé sur l'Inde du Nord. Et d'autre part, la cooptation au sein des minorités ethno-religieuses de certaines élites et castes supérieures qui, du coup, à l'extérieur, à l'international, donnent l'image de Narendra Modi de quelqu'un qui n'est pas anti-minorité, puisqu'il reçoit des leaders religieux dans sa résidence. Donc, vous voyez, c'est pour moi, là, je considère que ce n'est plus le même pays sur lequel j'ai commencé à travailler. Et effectivement, on est vraiment sur un hindouisme politique qui, selon moi, et j'en termine, là, définitivement implanté, aussi parce que l'opposition ne lutte pas ça et reprend des codes de l'hindouisme politique pour mener campagne.
Arundhati Vermani, cette nouvelle ère, vous la voyez comment? Vous l'imaginez comment, justement, telle qu'elle est présentée par Narendra Modi, mais telle qu'il pourrait être aussi masqué par Narendra Modi pour dire autre chose que ce que sera l'avenir dont il rêve?
Je pense qu'un des points les plus importants dans cette nouvelle ère, pour qu'il ait une nouvelle ère, c'est le développement pour tous. Et que ce développement n'écarte pas 50% des Indiens aujourd'hui qui vivent de moins de $2 par jour. Et que cette nouvelle ère, ce nouveau pays, l'Inde, bien sûr, c'est pas la même démocratie qu'il l'était en 1960. Forcément, la démocratie et les systèmes démocratiques ont changé. Ça ne fonctionne pas, les institutions sont complètement différentes. Mais que je pense que l'Inde dans une nouvelle ère peut survivre seulement si il est plus inclusif. Et ça, c'est un mot absolument clé pour pouvoir tenir système fédéral ensemble.
Ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin, en tout cas, de cette inclusivité que vous appelez de vos voeux, Arundhati Vermani.
C'est un défi pour la nouvelle ère, et qu'on ne peut pas limiter d'imaginer l'Inde dans l'avenir que dans ce paradigme que nous trouvons devant nous aujourd'hui.
Merci en tous les cas à toutes les trois. Donc merci à vous, Arundhati Vermani. Je rappelle que vous êtes historienne de l'Inde contemporaine, que vous avez enseigné à l'Université de Delhi, que vous enseignez actuellement au campus de Marseille de l'École des hautes études en sciences sociales, que vous êtes autrice de l'Atlas historique de l'Inde et de Les Indiens à voix multiples. C'était chez Atelier Henri Dougier. Vous étiez en duplex avec nous des studios de France Bleu Provence à Aix-en-Provence, et on les remercie de vous avoir accueillis. Merci beaucoup, Sophie Landrin, d'avoir été avec nous en tant que chef du bureau du journal Le Monde à New Delhi depuis 2019, et également en tant que co-autrice avec Guillaume Delacroix de ce livre qui sort la semaine prochaine, et je conseille à nos auditeurs, donc Dans la tête de Narendra Modi, dans cette excellente collection chez Actes Sud qui s'appelle Dans la tête 2. Et merci à vous, Charlotte Thomas, d'avoir été avec nous, docteur en sciences politiques, associé au programme Asie du Sud au sein du réseau de chercheurs Noria, et autrice de Pogrom et ghetto, les musulmans dans l'Inde contemporaine chez Cartala. C'était le temps du débat préparé ce soir par Mathias Mégy, Fanny Richer, Roxane Poulain, Anouk Sevenot, Stéphanie Villeneuve, réalisée par Laurence Malonda, avec Ruben Karmazine, puisque je n'avais pas le bon nom, Ruben Karmazine sous mes yeux. Donc merci à Ruben Karmazine d'avoir été à la technique pour nous.